longues négociations, on n'en connaît pas plus pour l'instant, devrait connaître le contenu de cet accord dans l'après-midi. On va maintenant à la Bourse de Paris pour un nouveau point. Cédric Decoeur, toujours la hausse.
Oui Claire, sans réelle conviction, le marché parisien évolue en territoire positif depuis ce matin. Le CAC 40 gagne en ce moment 0,37% à 4421 points dans un volume d'affaires limité puisque seul 1,1 milliard d'euros a changé de main depuis l'ouverture sur les valeurs du SRD. Surtout, la situation ne devrait guère évoluer en ce lundi pour cause d'absence des investisseurs américains en raison de la fête du travail aux États-Unis. Cette orientation positive se retrouve presque partout sur les autres places européennes. L'Eurofirst 80 gagne 0,41%, Francfort gagne 0,54%. Je vous disais presque partout parce que Londres est un petit peu plus timide. Le FTSE ne gagne que 0,1%. Sur le marché d'échange, le billet vert, lui, se replie encore un petit peu, mais reste tout de même ferme contre la monnaie unique. L'euro cote en ce moment 1,2539 en petite baisse de 0,02%. Voilà Claire, je vous rappelle le CAC 40 qui lui gagne 0,37%. Il est à 4421 points à la Bourse de Paris. Pour France Inter, Cédric Decoeur.
Retrouvez toute l'actualité boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés, ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros la minute. 3230, France Inter au bout du fil.
14h03 sur France Inter, on reprend les bonnes vieilles habitudes. Patrice Gélinet, on vous retrouve à 14h.
Eh oui, bonjour Claire et bonjour à tous. Toute l'équipe de 2000 ans d'histoire est heureuse de vous retrouver après 9 semaines de rediffusion et avec de nouveaux sujets, dont le premier aujourd'hui nous permettra de prolonger un peu les vacances, une histoire du tourisme. Touriste, personne qui voyage par curiosité et désœuvrement. Dictionnaire Larousse, 1875. D'histoire. Inventé par les Anglais il y a plus de 200 ans et longtemps réservé à une élite qui avait assez de temps et d'argent pour tromper son ennui en voyageant en France ou en Italie, le tourisme en se démocratisant est devenu aujourd'hui une industrie. Stimulé par les congés payés, les progrès des transports, l'invention des bains de mer et des sports d'hiver, le tourisme de masse d'aujourd'hui n'a plus grand-chose à voir avec celui qui permettait naguère à quelques privilégiés de se retrouver à Bath, Brighton, à Nice, à Chamonix ou à Florence. Mais il répond toujours au même besoin d'évasion, celui qui, à l'époque du Front populaire, avait poussé une nouvelle génération de touristes à découvrir pour la première fois la mer, la campagne ou la montagne.
Dans les immenses agglomérations que sont les villes modernes, les populations absorbées dans une existence enfiévrée ne semblent pas à première vue se ressentir des effets de l'air vicié qu'elles respirent. C'est la rançon du progrès, lourde rançon dont la jeunesse paie la plus grande part. Pour lui rendre la vigueur, il fallait lui permettre de jouir des bienfaits qu'offre la campagne et susciter en sa faveur un vaste mouvement de tourisme. Les auberges de la jeunesse ont été créées dans ce but. Désormais, les jeunes gens des deux sexes peuvent s'évader de la ville pour parcourir les campagnes à pied ou à bicyclette, aller contempler les sites, les monuments qu'ils ne connaissaient que par ouï-dire.
Marc Boyer, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes historien, membre du Conseil national du tourisme et auteur de nombreux livres sur ce sujet, dont le dernier, Histoire générale du tourisme, vient d'être publié chez L'Harmattan, un livre dans lequel on découvre beaucoup de choses et notamment que l'invention du tourisme est assez récente. Les hommes voyagent depuis la nuit des temps, mais ils ne font du tourisme que depuis le XVIIIe siècle. Faire du tourisme, c'est pas seulement voyager, Marc Boyer.
Non, c'est évidemment pas. C'est autre chose. Voyager, il y a longtemps que les hommes le faisaient, c'est voyager sans être contraint, ni obligé, ni par souci de lucre. Et comme vous le disiez au début, il n'y avait pas de mot pour désigner ce voyage gratuit, celui que des Britanniques commencent à faire à partir du XVIIIe siècle. Et et c'est seulement les Britanniques qui connaissent le mot tour au XVIIIe siècle, puisque la grande encyclopédie ne parle que du tour du chaudronnier, d'une machine à façonner en rond, ou tout au plus par extension du tour du jardin, mais qui ne va pas plus loin que son jardin.
Mais quand même, vous, au début de votre livre, vous commencez par une espèce de préhistoire du tourisme. Vous évoquez, bien sûr, mais là, ils avaient une finalité. Hein. Il y avait les pèlerinages du Moyen-Âge, les grandes découvertes. Mais par exemple, vous dites qu'un des tout premiers touristes, c'est au fond celui qui a fait la première ascension du Mont-Aiguille dans le Dauphiné en 1492. C'était, je crois, Antoine de Ville, sur ordre de Charles VIII. Et là, vous dites que c'est au fond, c'est un peu l'apparition du tourisme. C'est avec ça que ça commence, cette ascension du Mont Aiguille.
C'est-à-dire que la date est emblématique, 1492, oui. Comme Christophe Colomb, qui à ce moment-là découvre par hasard l'Amérique. Mais là, il s'agit d'une expédition de Charles VIII, qui sans doute est déjà fasciné par ce que représente l'Italie, parce que l'intérêt de la France à faire ces expéditions coûteuses n'est pas tellement évident, et qui n'est pas tellement pressé d'arriver, puisqu'en cours de route, il va visiter la Chartreuse, comme une curiosité. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ces hommes qui sont perdus dans la montagne pour mieux prier Dieu? Et puis, il voit une montagne extraordinairement pointue, qu'il appelle le Mont-Aiguille, justement, et il y a un de ses capitaines, Montez-y. Mmh. Et c'est donc une des premières...
Oui, parce que c'était désintéressé, ça n'avait pas de finalité, contrairement à ces expéditions en Italie qui étaient un tourisme, si on peut dire, militaire. Avant même que le mot touriste naisse également, Marc Boyer, vous rappelez qu'il y avait déjà des guides, et même que le mot guide était au féminin. Vous citez la guide des chemins de France de Charles Étienne.
Oui, c'est quand même de 1551.
Ouais.
C'est à partir du moment où des gens se sont mis à voyager pour aller en Italie, à Rome, mélangeant quand même leurs intérêts avec une curiosité de l'antiquité romaine. Montaigne lui-même avait des intérêts et sans doute une mission diplomatique quand il va à Rome. Mais en cours de route, il fait un peu de pèlerinage à Notre-Dame de Lorette, il monte ses escaliers sur les genoux et il va prendre toutes les eaux possibles parce qu'il croit à la vertu des eaux minérales. Et puis il visite les lieux, tout ce qui est intéressant. C'est donc une anticipation, et il raconte ce qu'il veut. Il raconte dans son journal, mais il ne pensait pas publier son journal. Et la guide des chemins de France, de Charles Étienne, aidait ce type de voyage. Et Montaigne copiait sans se gêner, comme font encore pas mal d'écrivains aujourd'hui, ce qu'il avait trouvé dans la guide, dans son journal.
Alors, le mot n'apparaît que plus tard. Il vient d'un voyage initiatique que faisaient, je crois, les étudiants anglais, vous venez de le dire, Marc Boyer, c'était le tour, le grand tour. Ça consistait, je crois, pour ces étudiants à aller s'initier après leurs études, à partir sur le continent, toujours vers l'Italie, à travers la France. C'est ça, le grand tour, d'où le mot touriste. D'ailleurs, les premiers touristes, tels que Stendhal les appelle au 19e, ce sont des Anglais, toujours.
Oui, oui. Mais vos tours, ou vos grands tours, est en effet un voyage des seuls riches britanniques, aristocrates, qui les distinguent à la fois de leurs compatriotes qui s'occupent que de s'enrichir mais ne voyagent pas, et aussi de la noblesse continentale qui ne bouge pas de ses châteaux. Donc il s'agit de devenir un gentleman et un cosmopolitan gentleman, un gentleman du monde.
Et ils vont donc vers la première grande destination touristique du 18e, l'Italie, vers laquelle partaient aussi les peintres et les écrivains romantiques français du 19e siècle.
Alors c'est décidé, vous partez.
De la Croix ne devait pas venir.
Allez.
Parfait. Allez. Je vous
écoute. Alors finalement, ce sera Florence ou Venise?
Nous tirons au sort dans l'intelligence.
Ouais, oh, adieu.
Adieu. Scott, direkt in venezianischen Boden, österreichisches Territorium.
C'est moi, Venezia.
C'est une honneur pour moi, Madame Sand, que vous ayez choisi notre hôtel pour entrer dans l'année nouvelle. Je suis ému. Tout Venise est impatient de vous voir.
Et c'était un extrait du film Les Enfants du siècle, le voyage de Georges Sand et Alfred de Musset en Italie, où sont passés d'ailleurs tous les grands écrivains du 19e siècle, et notamment les écrivains romantiques, Marc Boyer.
Oui, la grande époque, évidemment, du tourisme, c'est la période romantique. C'est cette période-là qui adopte le nom touriste dans le langage, et c'est déjà très significatif. Et puis tous les écrivains doivent y aller. Mais le 18e siècle avait quand même été une période importante ou prémonitoire où beaucoup de gens faisaient ce voyage culturel.
Et à travers la France qui a aussi, avec Paris, on passait par Paris, on passait par Lyon, ensuite on traversait le plus rapidement possible, on verra pourquoi, les Alpes pour aller en Italie. Alors, on va pas à la plage, on va, là, c'est un voyage culturel, en réalité, qui s'autorise au XIXe siècle.
Oui, pour l'Italie, on s'occupe pas de la mer, on va voir les villes, les sites à voir. Moi, j'aime dire Vidinda, mais maintenant, on dirait sightseeing, mais ça revient au même. Il y a des obligations que des guides très tôt vont indiquer. Au XVIIIe siècle, on commence à avoir des collections de guides, mais les grands guides, c'est l'époque romantique. C'est là que naissent notamment le Murray, Baedeker, et le guide Johann qui deviendra ensuite le guide bleu.
Alors, autre destination, très tôt, dès le XVIIIe siècle, à part l'Italie, ce sont les villes d'eau. La toute première, encore une fois, est une ville anglaise, c'est la ville de Bath, hein, c'est dans les Cornouailles, mais c'est aussi bientôt, un peu plus tard, en 1740, la première, on peut dire, station balnéaire sur la côte, qu'est la ville de Brighton, et puis ça sera suivi un peu plus tard par d'autres grandes stations balnéaires du fin 18e, début 19e, ce sera en France l'apparition de Deauville, de Arcachon, de Biarritz. En fait, c'est assez curieux parce que toutes ces stations balnéaires sont soit sur la Manche, sur la mer du Nord ou sur l'Atlantique. On ne va pas dans le Midi, en tout cas on n'y va pas pour se baigner, d'ailleurs on y va en hiver.
Oui.
Marc Boyer.
Oui, vous venez d'évoquer les grandes facettes de ce que j'appelle moi dans la révolution touristique du XVIIIe siècle, qui commence par l'invention de la saison d'été auprès des eaux minérales ou des thermes, c'est-à-dire que ce que les hommes faisaient par corvée, se soigner auprès des eaux, ils y allaient bien parce que les médecins étant nuls, il fallait bien se soigner autrement. Et voilà que Richard Nash, au début du XVIIIe siècle, transforme Bath en Cornouailles en lieu de plaisir. Un décor théâtral, les gens se regardent, se voient, s'admirent. On copie ensuite à Brighton, cette fois l'eau des sources est remplacée par une eau très fraîche dans laquelle on se plonge vigoureusement.
Et de l'eau de mer,
l'effet de suffocation guérit, prétend-on. Et d'autres stations thermales vont naître et d'autres stations balnéaires, toujours dans les mers fraîches, vont naître, qui attirent pour l'été. Autre invention du XVIIIe siècle, l'hiver dans le Midi, à partir de 1770, invention toute britannique, à Hyères et à Nice, on conseille de passer l'hiver au vert, non pas auprès de la mer bleue, au vert, le vert, parce que la végétation reste verte tout l'hiver, avec des fruits, avec des fleurs, et c'est le contenu de plaisir, de paradis, Éden, que donne cette côte d'Azur. Donc, pas question de mer en Méditerranée.
Donc on va sur la côte d'Azur, si j'ai bien compris, Marc Boyer, en hiver, et en été, en revanche, on va à la montagne pour éviter la chaleur et découvrir les sommets de la vallée de Chamonix.
Demain, on fait quoi? On va au sommet directement?
Si on marche bien, oui, sinon on ira coucher à la cabane de l'Aiguille du Goûter.
Vous allez où, comme ça?
Mont Blanc.
C'est beau. Oh, c'est beau. C'est avec Angelas.
Ouais. La face nord, 200 mètres de haut. Il n'y a rien de plus dur au monde. Et regarde. Là, c'est la face nord. Mais en fait, la voie directe, ce serait plutôt le grand pilier central, à droite du Névé. C'est ça, les ponts Walker. On est dans le plus bel endroit du monde, non?
Avant d'être un des plus beaux endroits du monde, Marc Boyer, les Alpes, et la montagne d'ailleurs en général, faisaient plutôt peur. On y passait, parce qu'on était bien obligé d'y aller, de passer par là pour aller en Italie, mais on évitait soigneusement d'y rester. On n'aimait pas. Elle faisait horreur, le mot, et plusieurs fois, vous le citez dans votre livre, plusieurs fois cité par les voyageurs. La montagne fait horreur.
Oui, au sens étymologique, c'est-à-dire qu'il fait frissonner. Oui. Horreur en latin, c'est ce que ça veut dire. Ou affreux. Ça veut dire aussi qu'il donne des peurs, des affres, physiquement. C'est bien le sens. On ne peut pas l'éviter. Et c'est un sujet, d'ailleurs, dans le journal de voyage, qui marche bien. Il faut montrer les peurs que l'on éprouve quand on traverse, par nécessité, les Alpes pour aller en Italie. Et les habitants même des Alpes doivent compléter la vision d'horreur. Les femmes ont des goitres, les hommes sont des crétins, des alpes. Bien, tout ça fait un tout. Un tout pour donner l'image épouvantable de la montagne, qui ne va se modifier qu'à partir du moment où des Anglais, toujours eux, qui faisaient le tour, pensent à découvrir les glacières de Chamonix. Donnant, c'est en 1740...
On dit Chamonix,
à la même...
c'est ça. Hein? On dit Chamonix,
je crois. En 1740, la même année pratiquement, qui est un, où est inventé Brighton. C'est-à-dire que les deux grandes peurs et effrois, celle, la peur de l'océan et la peur de la montagne, se dissipent en même temps au milieu du XVIIIe siècle et dans les deux cas du fait des Anglais. À ce moment-là, la montagne, les glaciers en tout cas, sont trouvés sublimes. Mais il faudra encore pas
les
mal de temps.
Les glaciers, c'est-à-dire les glaciers. Donc,
oui. C'est-à-dire les glaciers. Ce qu'on appelle les glaciers, c'est les glaciers de Chamonix ou celles de, ou les glaciers de Grindelwald dans l'Oberland. C'est un objet de visite. On y monte, on a bien peur en y allant, mais on va pas plus haut. On ne pense pas encore à conquérir des sommets. Et les conquêtes de sommets ne commencent qu'à la fin du XVIIIe siècle, par le fait d'ailleurs d'un Suisse cette fois, et non pas d'un Anglais pour la première, puisque c'est Saussure, qui paie des gens pour monter. Et
oui, c'est pas lui qui est monté, hein. Il faut rappeler, c'est Balma et Dr. Packard.
C'est ça.
En 1786.
Mais Saussure a été le deuxième.
Oui.
Ou le troisième.
Mais alors justement, qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Parce qu'il n'y a toujours pas, évidemment, de sport d'hiver. L'alpinisme n'existe pas vraiment après l'ascension, la première ascension du Mont Blanc en 1786. On peut dire qu'il n'apparaît qu'à la fin du 19e siècle. Il y a très peu d'ascensions à l'époque et c'est pas ça qu'on vient chercher quand on vient à Chamonix, qui d'ailleurs, au passage, était extrêmement difficile d'accès, cette vallée de Chamonix.
Oui, mais ça change quand même un peu plus vite que vous l'avez l'air de dire. S'il est vrai que le Mont Blanc, l'ascension du Mont Blanc n'a été faite qu'une centaine de fois entre 1786 et 1860, l'annexion de la Savoie à la France, il doit être vrai aussi qu'à partir de 1860 et la création de l'Alpine Club par les Britanniques toujours, il devient une grande fureur, c'est de faire l'ascension des sommets. D'abord parce que ça offre une très belle vue, comme on le disait tout à l'heure, dans le petit morceau que vous avez cité, mais aussi parce que ce sont des exploits. Et des grands alpinistes comme Memmeret disent « ça n'a pas d'importance, même si j'y vois rien, je monte pour monter ouais. ». C'est pour l'exploit sportif. C'est alors d'autres comme Ruskin, qui sont des contemplatifs du paysage, et qui a ici les contemple depuis Chamonix, dit « mais qu'est-ce que c'est que ces Anglais qui prennent la montagne comme si c'était une foire, des mats de cocaïne », dit-il.
Alors cela dit, la montagne, on y va, quand on y va, mais on y va en été, hein. Il faudra attendre l'invention tardive des sports d'hiver pour qu'elle commence à attirer effectivement pendant cette saison d'hiver. Et ça, c'est encore un Anglais qu'on doit, cette invention des sports d'hiver.
Oui, une invention toute faite. Parce que dans le fond, la montagne à haute altitude pratiquée en été, ce sont des conditions hivernales. Donc on aurait bien pu penser que c'était pas pire que ce qu'on trouve en hiver. Or, c'est en effet Lunn, Sir Arnold Lunn, qui, vers 1880-90, avec quelques amis, ont l'idée d'importer des planches de bois de Norvège, non pas pour se déplacer d'un point à un autre, comme faisaient les Scandinaves, mais pour descendre. Ils inventent donc le ski alpin, une activité ludique, totalement gratuite, ça sert strictement à rien. On se fatigue beaucoup à monter car il n'y a pas d'autre moyen que de porter les skis sur l'épaule et on a quelques moments de descente qui ne sont pas tellement rapides parce que comme on ne se descend pas longtemps, on n'a pas le temps de s'exercer. Et c'est à Davos en Suisse que ça commence. Et à Saint-Moritz, c'est...
Il y aura Bégève, il y aura, ça c'est les premières générations de stations, Méribel, Stadt. Alors on y va cette fois-ci en hiver, comme aujourd'hui. Alors au 19e siècle, on allait, nous l'avons dit, à la montagne en été et à la mer, sur la Côte d'Azur en hiver. Cette fois-ci, c'est alors le contraire. Première révolution, hein, on inverse les saisons. Et puis alors, deuxième révolution, elle se produit aussi au 20e siècle, la démocratisation du tourisme. Jusqu'au 20e siècle, le tourisme était réservé à une élite. Désormais, il est accessible à tout le monde.
Partir, c'est la première joie qu'apportent les vacances aux citadins prisonniers toute l'année de leurs tâches, de leurs soucis, des conventions. Les vacances payées, accordées par notre gouvernement, ont rendu cette année aux plages de France toute leur animation d'autrefois.
Partir pour la Côte d'Azur, aller vers le ciel mûr. partir. Quitter la scène et ses brouillards, le spleen et le cafard. Partir, les yeux éblouis de lumière, devant l'horizon qui s'éclaire. D'espoir et de désir, d'ivresse et de plaisir. Partir pour un tour de nature, à l'éclair de circulant. Partir.
2000 ans d'histoire, Patrice Gélinet.
Et c'était Robert Burnier, Partir sur la Côte d'Azur, une chanson des années 30, quand les congés payés de 36 permettaient à tout le monde de prendre des vacances. Vous en parlez assez peu, Marc Boyer, alors que pour beaucoup, ça donne le sentiment que c'est quand même aussi une autre révolution touristique. Tout le monde pouvant prendre des vacances, tout le monde peut devenir touriste. C'est plus une élite qui part en vacances et qui fait du tourisme.
C'est en effet l'image qu'a laissé 36, image très forte. Chacun sait ou se souvient qu'au moment des procès de Rion, pendant la guerre, suscitée par le gouvernement de Vichy, là, ça a été l'argument choc de Léon Blum et des membres du gouvernement en disant « Mais nous avons fait les congés populaires ». Et du coup, devant cet argument, Vichy s'est dépêché d'arrêter ce procès.
Cela dit, pendant les années 30, l'extrême droite critiquait beaucoup ces congés payés. Il y a, vous citez beaucoup. Cette formule horrible de Gringoire, de journal extrême droite, qui dénonçait l'arrivée sur la Côte d'Azur, en tout cas sur les plages, des salopards en casquette.
Oui. Hein. Et c'est vrai que les journaux de la Côte d'Azur avaient très peur de cette arrivée. Mais en vérité, cette diffusion du tourisme s'est faite sur un bon nombre d'années. Disons en gros que jusqu'en 1914, le tourisme n'est le fait que des rentiers, de ceux qui ne travaillent pas. Donc la bourgeoisie riche, mais qui est riche de son travail, dans l'industrie ou dans le commerce, ne part pas en vacances, tout au plus envoie-t-il la famille dans une maison de campagne. Ensuite, la bourgeoisie accède à ses vacances, au tourisme, elle en a les moyens, mais pendant longtemps, elle n'en avait littéralement pas l'idée. Harry Cécile Louis, dans le livre sur les patrons, montre assez bien que tous ces patrons d'avant 14 ne partant pas. Là, quant à 36 et les années suivantes, on a en effet eu le sentiment qu'il y avait appropriation, sentiment exact, qu'il y avait appropriation par le peuple de pratiques qui n'étaient pas destinées au peuple. C'était le thème de « Allons au-devant de la vie ». Nous avons chanté le talent. Chantons mythique de la période 36. Acquisition de ce qui n'appartenait pas au peuple. Appropriation. Maladroite au départ, et qui souvent se limitait à aller revoir des parents à la campagne qu'on avait perdu quand on avait émigré pour aller travailler en ville.
Alors la démocratisation viendra aussi avec les progrès des moyens de transport. Dès le 19e siècle, il y a ce que vous appelez la vélorution, hein, l'apparition du vélo, mais plus tard sera la voiture qui se démocratisera, la baisse des prix des transports ferroviaires, l'apparition de nouvelles stations aussi, en été, de nouvelles stations balnéaires. Après Nice et hier, on va voir apparaître Juan-les-Pins, Cannes, et puis alors aussi d'une nouvelle façon, après la guerre, de voyager et d'être un touriste, comme ces gentils membres et ces gentils organisateurs d'un club de vacances aussi célèbre que le film qu'il a parodié en 1978.
Bonsoir les GM.
Bonsoir.
Bienvenue à Galaxinda, bienvenue à Galaxinda. Je m'appelle Marcus et je suis le chef de village.
La petite hôtesse, elle est maquée?
Ouais, elle est avec moi.
Et sa copine, la frisée?
Elle est maquée aussi avec moi.
Ah bon? Et il y a quel pourcentage de filles pour un mec?
Ça dépend du mec, ça.
Ah oui, d'accord, oui.
Allez, GM, bonsoir, bon appétit! Rendez-vous ce soir à l'amphithéâtre pour la super présentation Géo, les Géos de Galaxinda, suivi de la soirée Contact. Allez, s'il vous plaît, vous répétez très fort après moi. Contact!
C'était bien sûr Thierry Lhermitte, Michel Blanc et d'autres bronzés du film de Patrice Lecomte, une parodie du Club Med, mais qui a été créé, je crois, en 1948. Ça aussi, c'est une révolution, Marc Boyer. C'est une nouvelle façon d'être touriste, si on peut appeler ça, enfin en tout cas ce qui n'a plus grand chose à voir avec le tourisme du 19e.
Oui, tout à l'heure vous avez donné un morceau du film de Patrice Leconte et Bronzé. Je me souviens l'avoir vu pour la première fois, autour d'un studio dans les dossiers de l'écran. Et il y avait Gilbert Trigano aussi, qui découvrait en même temps que les invités ce film. Et qui en était gêné parce que c'était pas ce film ne donnait pas l'impression de ce qu'il avait voulu quand il avait créé, surtout avec Gérard Blitz, le premier club méditerranéen, qui était un groupe de copains qui voulaient faire du sport. S'approprier des pratiques élitistes entre copains.
C'est quand même un mode de tourisme qui s'est développé, puis un tourisme qui a d'autres motivations, qui peut être aussi un tourisme, alors comme on en voit aujourd'hui, bon je parle pas du Club Med bien sûr, mais le tourisme sexuel en Thaïlande. Il faut savoir rappeler aussi que les destinations ont beaucoup changé, on va de plus en plus loin, même si les grands pays d'accueil de touristes restent encore l'Europe ou l'Amérique. Le premier d'ailleurs, on l'oublie toujours, c'est la France, je crois, qui accueille 75 millions de touristes devant les États-Unis et devant l'Italie. Mais c'est vrai que on va de plus en plus loin parce que grâce au transport aérien et grâce au faible prix de la main-d'œuvre dans les pays d'accueil, eh bien, on voit le tourisme un peu partout maintenant. Marc Boyer.
Oui, vous dites beaucoup de choses vraies en peu de mots. Ce qui n'est
parce
pas
qu'il nous reste très peu de temps, malheureusement.
Mais non, c'est exact. Mais bien saisir que la révolution des 3 S, si, send, and son, auquel s'ajoute le 4e S, le sexe, est une révolution relativement récente, en gros des années 1930, qui vient des paysages tropicaux, en France, de Jean Lépin, qui est une invention américaine. C'est donc très récent, et ça a permis un certain éclatement mondial, dans la mesure où le contenu, d'ailleurs, est culturellement faible. Il suffit qu'il y ait du soleil, du sable, et éventuellement.
Merci Marc Boyer. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Histoire générale du tourisme, qui vient de sortir aux éditions de l'Harmattan. Vous êtes également l'auteur de nombreux livres sur le tourisme, dont le thermalisme dans le grand sud-ouest de la France, qui vient de paraître aux presses universitaires de Grenoble. À lire également sur le sujet votre histoire du tourisme de masse au PUF dans la collection Que sais-je. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, Les Enfants du siècle de Diane Curis avec Juliette Binoche, disponible en DVD chez Studio Canal, Les Bronzés de Patrice Lecomte, disponible en DVD chez Studio Canal, Premier de cordée d'Edouard Niermans, édité en DVD chez Film Office, et enfin des archives pâtées de 36 et 37 paru aux éditions Montparnasse Vidéo. Vous pouvez retrouver ces références en contactant le service des relations auditeurs au 3230, 34 centimes la minute, ou en consultant le site de notre émission sur franceinter.com. Merci aux gentils membres et gentils organisateurs de ce voyage dans le temps, Sophie Moreno, Patrick Henry, Claire Tesser et Camille Poux, et au chef de notre...